Chapitre 2. Un roi poète. Le lendemain et les jours qui suivirent se passèrent en fêtes, balais et tournois. La même fusion continuait de s'opérer entre les deux parties. C'était des caresses et des attendrissements à faire perdre la tête aux plus enragés huguenots. On avait vu le père Coton dîner et faire débauche avec le baron de Courtomer, le duc de Guise remonter la Seine en bateau de symphonie avec le prince de Condé. Le roi Charles paraissait avoir fait divorce avec sa mélancolie habituelle et ne pouvait plus se passer de son beau-frère Henri. Enfin, la reine-mère était si joyeuse et si occupée de broderies, de joyaux et de panaches qu'elle en perdait le sommeil. Les huguenots, quelque peu amollis par cette capoue nouvelle, commençaient à revêtir les pourpoints de soie, à arborer les devises et à parader devant certains balcons comme s'ils eussent été catholiques. De tous côtés, c'était une réaction en faveur de la religion réformée, à croire que toute la cour allait se faire protestante. L'amiral lui-même, malgré son expérience, s'y était laissé prendre comme les autres, et il en avait la tête tellement montée qu'un soir il avait oublié pendant 2 heures de mâcher son cure-dent, occupation à laquelle il se livrait d'ordinaire depuis 2 heures de l'après-midi, moment où son dîner finissait, jusqu'à 8 heures du soir, moment auquel il se remettait à table pour souper. Le soir où l'amiral s'était laissé aller à cet incroyable oubli de ses habitudes, le roi Charles IX avait invité à goûter avec lui, en petit comité, Henri de Navarre et le duc de Guise. Puis, la collation terminée, il avait passé avec eux dans sa chambre, et là, il leur expliquait l'ingénieux mécanisme d'un piège à loup qu'il avait inventé lui-même, lorsque, s'interrompant tout à coup, « Monsieur l'amiral, ne vient-il pas ce soir ? » demanda-t-il. « Qui l'a aperçu aujourd'hui qui peut me donner de ses nouvelles ?»« Moi, dit le roi de Navarre, et au cas où votre majesté serait inquiète de sa santé, je pourrais la rassurer, car je l'ai vu ce matin à 6 heures et ce soir à 7. » « Ah ! » fit le roi, dont les yeux, un instant distraits, se reposèrent avec une curiosité perçante sur son beau-frère. « Vous êtes bien matineux, Henriot, pour un jeune marié. » « Oui, sire, répondit le roi de Béarn, je voulais savoir de l'amiral qui sait tout, si quelque gentilhomme que j'attends encore de son point en route pour venir. »« Des gentilhommes, encore? Vous en aviez 800 le jour de vos noces, et tous les jours il en arrive de nouveau. Voulez-vous donc nous envahir ?» dit Charles IX en riant. Le duc de Guise fronça le sourcil. « Sire, répliqua le Béarnais, on parle d'une entreprise sur les Flandres et je réunis autour de moi tous ceux de mon pays et des environs que je crois pouvoir être utiles à votre majesté. » Le roi, se rappelant le projet dont le Béarnais avait parlé à Marguerite le jour de ses noces, écouta plus attentivement. « Bon, bon, répondit le roi avec son sourire fauve, plus il y en aura, plus nous serons contents. Amenez, amenez, Henri, mais qui sont ces gentilshommes? Des vaillants, j'espère. Ah, j'ignore, sire, si mes gentilshommes vendront jamais ceux de votre majesté, ceux de monsieur le duc d'Anjou, ceux de monsieur le duc de Guise, mais je les connais et sais qu'ils feront de leur mieux. En entendez-vous beaucoup? 10 ou 12 encore. Et vous les appelez? Sire, leur nom m'échappe, et à l'exception de l'un d'entre eux qui m'est recommandé par Téligny, comme un gentilhomme accompli et qui s'appelle De La Mole, je ne saurais dire « De La Mole, n'est-ce point un Lérac de La Mole ?» reprit le roi, fort versé dans la science généalogique, un Provençal. « Eh, précisément, sire, comme vous voyez, je recrute jusqu'en Provence. » Et moi, dit le duc de Guise, avec un sourire moqueur, je vais plus loin encore que sa majesté le roi de Navarre, car je vais chercher jusqu'en Piémont tous les catholiques sûrs que j'y puis trouver. Oh, catholique ou huguenot, interrompit le roi, peu m'importe, pourvu qu'il soit vaillant. Le roi, pour dire ces paroles, qui, dans son esprit, mêlait huguenots et catholiques, avait pris une mine si indifférente que le duc de Guise en fut étonné lui-même. Votre majesté s'occupe de nos flamands, dit l'amiral à qui le roi, depuis quelques jours, avait accordé la faveur d'entrer chez lui sans être annoncé, et qui venait d'entendre les dernières paroles du roi. « Ah, voici mon père l'amiral !» s'écria Charles IX en ouvrant les bras. « On parle de guerre, de gentilhomme, de vaillant, et il arrive !»« Ce que c'est Clément, le fer s'y tourne !»« Mon beau-frère de Navarre et mon cousin de Guise attendent des renforts pour votre armée, voilà ce dont il est question. »« Et ces renforts arrivent, » dit l'amiral. « Avez-vous eu des nouvelles, monsieur ?» demanda le Béarnais. « Oui, mon fils, et particulièrement de monsieur de La Mole. Il était hier à Orléans et sera demain ou après-demain à Paris. » peste, monsieur l'amiral est donc nécromant, pour savoir ainsi ce qui se fait à 30 ou 40 lieues de distance. Quant à moi, je voudrais bien savoir avec quelle certitude ce qui se passa ou ce qui s'est passé devant Orléans. » Coligny resta impassible à ce trait sanglant du duc de Guise, lequel faisait évidemment allusion à la mort de François de Guise, son père, tué devant Orléans par Poltrot de Méré, non sans soupçon que l'amiral eût conseillé ce crime. « Monsieur, répliqua-t-il froidement et avec dignité, je suis nécromant toutes les fois que je veux savoir bien positivement ce qui importe à mes affaires ou à celles du roi. Mon courrier est arrivé d'Orléans il y a 1 heure et, grâce à la poste, a fait 32 lieues dans la journée. Monsieur de La Mole, qui voyage sur son cheval, n'en fait que 10 par jour, lui, et arrivera seulement le 24. Voilà toute la magie. » Ah, bravo, mon père, bien répondu, dit Charles IX. Montrez à ces jeunes gens ce que c'est que la sagesse en même temps que l'âge qui ont fait blanchir votre barbe et vos cheveux. Aussi allons-nous les envoyer parler de leurs tournois et de leurs amours et rester ensemble à parler de nos guerres. Ce sont les bons cavaliers qui font les bons rois, mon père. Allez, messieurs, j'ai à causer avec l'amiral. Les deux jeunes gens sortirent, le roi de Navarre d'abord, le duc de Guise ensuite, mais hors de la porte, chacun tourna de son côté après une froide révérence. Coligny les avait suivis des yeux avec une certaine inquiétude, car il ne voyait jamais approcher ces deux haines sans craindre qu'il n'en jaillît quelque nouvel éclair. Charles IX comprit ce qui se passait dans son esprit, vint à lui et, appuyant son bras au sien, « Soyez tranquille, mon père, je suis là pour maintenir chacun dans l'obéissance et le respect. Je suis véritablement roi depuis que ma mère n'est plus reine, et elle n'est plus reine depuis que Coligny est mon père. »« Oh, sire, dit l'amiral, la reine Catherine, est une brouillonne. Avec elle, il n'y a pas de paix possible. Ces catholiques italiens sont enragés et n'entendent rien qu'à exterminer. Moi, tout au contraire, non seulement je veux pacifier, mais encore je veux donner de la puissance à ceux qui sont de la religion. Les autres sont trop dissolus, mon père, ils me scandalisent par leurs amours et par leurs dérèglements. « Tiens, veux-tu que je te parle franchement ?» continua Charles IX en redoublant d'épanchement. « Je me défie de tout ce qui m'entoure, excepté de mes nouveaux amis. L'ambition des tavannes m'est suspecte. Vieille ville n'aime rien que le bon vin, et il serait capable de trahir son roi pour 1 tonne de malvoisie. Montmorency ne se soucie que de la chasse et passe son temps entre ses chiens et ses faucons. Le comte de Retz est espagnol, les Guises sont lorrains, il n'y a de vrais Français en France, je crois, Dieu me pardonne, que moi, que mon beau-frère de Navarre et toi. Mais moi, je suis enchaîné au trône et ne puis commander les armées, c'est tout au plus si on me laisse chasser à mon aise à Saint-Germain et à Rambouillet. Mon beau-frère de Navarre est trop jeune et trop peu expérimenté. D'ailleurs, il me semble en tout point tenir de son père Antoine que les femmes ont toujours perdu. Il n'y a que toi, mon père, qui sois à la fois brave comme Julius César et sage comme Platon. Aussi, je ne sais ce que je dois faire en vérité, te garder comme conseiller ici ou t'envoyer là-bas comme général. Si tu me conseilles, qui commandera? Si tu commandes, qui me conseillera? Sire, dit Coligny, il faut vaincre d'abord, puis le conseil viendra après la victoire. C'est ton avis, mon père. Eh bien, soit, il sera fait selon ton avis. Lundi, tu partiras pour les Flandres, et moi pour Amboise. Votre Majesté quitte Paris? Oui, je suis fatigué de tout ce bruit, de toutes ces fêtes. Je ne suis pas un homme d'action, moi je suis un rêveur. Je n'étais pas né pour être roi, j'étais né pour être poète. Tu feras une espèce de conseil qui gouvernera tant que tu seras à la guerre, et pourvu que ma mère n'en soit pas, tout ira bien. Moi, j'ai déjà prévenu Ronsard de venir me rejoindre, et là, tous deux, loin du bruit, loin du monde, loin des méchants, sous nos grands bois, au bord de la rivière, au murmure des ruisseaux, nous parlerons des choses de Dieu, seule compensation qu'il y ait en ce monde aux choses des hommes. Tiens, écoute ces vers par lesquels je l'invite à me rejoindre, je les ai faits ce matin. Coligny sourit. Charles IX passa sa main sur son front jaune et poli comme de l'ivoire et dit avec une espèce de chant cadencé les vers suivants. « Ronsard, je connais bien que si tu ne me vois, tu oublies soudain de ton grand roi la voix. Mais pour ton souvenir, pense que je n'oublie, continuez toujours d'apprendre en poésie, et pour ce que j'ai voulu t'envoyer cet écrit, pour enthousiasmer ton fantastique esprit. Donc ne t'amuse plus aux soins de ton ménage, maintenant n'est plus temps de faire jardinage. Il faut suivre ton roi qui t'aime par-dessus tout pour les vers qui de toi coulent braves et doux. Et crois, si tu ne viens me trouver à Amboise, qu'entre nous adviendra une bien grande noise. Bravo, sire, bravo, dit Coligny. Je me connais mieux aux choses de la guerre qu'aux choses de poésie, mais il me semble que ces vers valent les plus beaux que fassent Ronsard, Dora et même Michel de l'Hôpital, chancelier de France. Ah, mon père, s'écria Charles IX, que ne dis-tu vrai? Car le titre de poète, vois-tu, est celui que j'ambitionne avant toute chose. Et comme je le disais il y a quelques jours à mon maître en poésie, l'art de faire des vers du ton sans indigner doit être à plus haut prix que celui de régner. Tous deux également nous portons des couronnes, mes rois je les reçus, poète tu les donnes. Ton esprit enflammé d'une céleste ardeur éclate par soi-même et moi par ma grandeur. Si du côté des dieux je cherche l'avantage, Ronsard est leur mignon et je suis leur image. Ta lyre qui ravit par de si doux accords te soumet les esprits dont je n'ai que le corps. Elle t'en rend le maître et te fait introduire où le plus fier tyran n'a jamais eu d'empire. Ah, sire, dit Coligny, je savais bien que votre majesté s'entretenait avec les muses, mais j'ignorais qu'elle en avait fait son principal conseil. Après toi, mon père, après toi, et c'est pour ne pas me troubler dans mes relations avec elle que je veux te mettre à la tête de toutes choses. Écoute donc, il faut en ce moment que je réponde à un nouveau madrigal que mon cher et grand poète m'a envoyé. Je ne puis donc te donner à cette heure tous les papiers qui sont nécessaires pour te mettre au courant de la grande question qui nous divise, Philippe II et moi. Il y a en outre une espèce de plan de campagne qui avait été fait par mes ministres. Je te chercherai tout cela et je te le remettrai demain. À quelle heure, sire? À 10 heures. Et si par hasard j'étais occupé de vers, si j'étais enfermé dans mon cabinet de travail, eh bien tu entrerais tout de même et tu prendrais tous les papiers que tu trouverais sur cette table, enfermés dans ce portefeuille rouge. La couleur est éclatante et tu ne t'y tromperas pas. Moi, je vais écrire à Ronsard. Adieu, sire. Adieu, mon père. Votre main? Que dis-tu, ma main? Dans mes bras, sur mon cœur, c'est là ta place. Viens, mon vieux guerrier, viens. Et Charles IX, attirant à lui Coligny qui s'inclinait, posa ses lèvres sur ses cheveux blancs. L'amiral sortit en essuyant une larme. Charles IX le suivit des yeux tant qu'il put le voir, tendit l'oreille tant qu'il put l'entendre, puis lorsqu'il ne vit et n'entendit plus rien, il laissa, comme c'était son habitude, retomber sa tête pâle sur son épaule et passa lentement de la chambre où il se trouvait dans son cabinet d'armes. Ce cabinet était la demeure favorite du roi. C'était là qu'il prenait ses leçons d'escrime avec Pompée et ses leçons de poésie avec Ronsard. Il y avait réuni une grande collection d'armes offensives et défensives des plus belles qu'il avait pu trouver. Aussi, toutes les murailles étaient tapissées de haches, de boucliers, de piques, de halbardes, de pistolets et de mousquetons. Et le jour même, un célèbre armurier lui avait apporté une magnifique arquebuse sur le canon de laquelle étaient incrustés en argent ces 4 vers que le poète royal avait composés lui-même. « Pour maintenir la foi, je suis belle et fidèle, aux ennemis du roi, je suis belle et cruelle. » Charles IX entra donc, comme nous l'avons dit, dans son cabinet, et après avoir fermé la porte principale par laquelle il était entré, il alla soulever une tapisserie qui masquait un passage donnant sur une chambre où une femme agenouillée devant un prie-dieu disait ses prières. Comme ce mouvement s'était fait avec lenteur et que les pas du roi, assourdis par le tapis, n'avaient pas eu plus de retentissement que ceux d'un fantôme, la femme genouillée, n'ayant rien entendu, ne se retourna point et continua de prier. Charles demeura un instant debout, pensif, en la regardant. C'était une femme de 34 à 35 ans, dont la beauté vigoureuse était relevée par le costume des paysannes des environs de Caux. L'appartement qu'elle occupait depuis bientôt 20 ans était contigu à la chambre à coucher du roi et offrait un singulier mélange d'élégance et de rusticité. C'est qu'en proportion à peu près égale, le palais avait déteint sur la chaumière et la chaumière sur le palais. de sorte que cette chambre tenait un milieu entre la simplicité de la villageoise et le luxe de la grande dame. En effet, le prie-dieu sur lequel elle était agenouillée était de bois de chêne merveilleusement sculpté, recouvert de velours à crépines d'or. Tandis que la Bible, car cette femme était de religion réformée, tandis que la Bible, dans laquelle elle lisait ses prières, était un de ces vieux livres à moitié déchirés, comme on en trouve dans les plus pauvres maisons. Or, tout était à l'avenant de ce prie-dieu et de cette Bible. « Eh, Madelon !» dit le roi. La femme agenouillée releva la tête en souriant à cette voix familière, puis, se levant, « Ah, c'est toi, mon fils, » dit-elle. « Oui, nourrice, viens ici. » Charles IX laissa retomber la portière et alla s'asseoir sous le bras d'un fauteuil. La nourrice parut. « Que me veux-tu, Charlot ? » dit-elle. « Viens ici, » répond tout bas. La nourrice s'approcha avec cette familiarité qui pouvait venir de cette tendresse naturelle que la femme conçoit pour l'enfant qu'elle a allaité, mais à laquelle les pamphlets du temps donnent une source infiniment moins pure. « Me voilà, » dit-elle, « parle. L'homme que j'ai fait demander est-il là ?» Depuis une demi-heure. Charles se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda si personne n'était aux aguets, s'approcha de la porte, tendit l'oreille pour s'assurer que personne n'était aux écoutes, secoua la poussière de ses trophées d'armes, caressa un grand livrier qui le suivait pas à pas, s'arrêtant quand son maître s'arrêtait, reprenant sa marche quand son maître se remettait en mouvement. Puis, revenant à sa nourrice, « C'est bon, nourrice, fais-le entrer. » La bonne femme sortit par le même passage qui lui avait donné l'entrée, tandis que le roi allait s'appuyer à une table sur laquelle étaient posées des armes de toute espèce. Il y était à peine que la portière se souleva de nouveau et donna le passage à celui qui l'attendait. C'était un homme de 40 ans à peu près, à l'œil gris et faux, au nez recourbé en bec de chat-huant, aux faciès élargis par des pommettes saillantes. Son visage essaya d'exprimer le respect et ne put fournir qu'un sourire hypocrite sur ses lèvres blêmies par la peur. Charles allongea doucement derrière lui une main qui se porta sur un pommeau de pistolet de nouvelle invention et qui partait à l'aide d'une pierre mise en contact avec une roue d'acier au lieu de partir à l'aide d'une mèche, et regarda de son œil terne le nouveau personnage que nous venons de mettre en scène. Pendant cet examen, il sifflait avec une justesse et même avec une mélodie remarquable, un de ses airs de chasse favoris. Après quelques secondes, pendant lesquelles le visage de l'étranger se décomposa de plus en plus, « C'est bien vous, dit le roi, que l'on nomme François de Louviers-Maurevel ? Oui, sire. Commandant des pétardiers ? Oui, sire. J'ai voulu vous voir. » Maurevel s'inclina. « Vous savez, continua Charles en s'appuyant sur chaque mot, que j'aime également tous mes sujets. Je sais, balbutia Maurevel, que votre majesté est le père de son peuple, et que huguenots et catholiques sont également mes enfants. » Maurevel resta muet. Seulement le tremblement qui agitait son corps devint visible au regard perçant du roi, quoique celui auquel il adressait la parole fût presque caché dans l'ombre. « Cela vous contrarie, continua le roi, vous qui avez fait une si rude guerre aux huguenots ?» Maurevel tomba à genoux. « Sire, balbutia-t-il, croyez bien. Je crois, continua Charles IX, en arrêtant de plus en plus sur Maurevel un regard qui, de vitreux qu'il était d'abord, devenait presque flamboyant, je crois que vous avez bien envie de tuer à mon contour monsieur l'amiral qui sort d'ici. » « Je crois que vous avez manqué votre coup, et qu'alors vous êtes passé dans l'armée du duc d'Anjou, notre frère. Enfin, je crois qu'alors vous êtes passé une seconde fois chez les princes, et que vous avez pris du service dans la compagnie de monsieur de Mouy de Saint-Phal. »« Sire, sire !» s'écria Maurevel, « ne m'accablez pas !»« C'était un digne officier, » continua Charles IX. Et au fur et à mesure qu'il parlait, une expression de cruauté presque féroce se peignait sur son visage. « Lequel vous accueillit comme un fils, vous logea, vous habilla, vous nourrit ?» Maurevel laissa échapper un soupir de désespoir. « Vous l'appeliez votre père, je crois, » continua impitoyablement le roi, « et une tendre amitié vous liait au jeune de Mouy, son fils. » Maurevel, toujours à genoux, se courbait de plus en plus, écrasé par la parole de Charles IX, debout, impassible, et pareil à une statue dont les lèvres seules eussent été douées de vie. À propos, continua le roi, n'était-ce pas 10 000 écus que vous deviez toucher de monsieur de Guise au cas où vous tueriez l'amiral? L'assassin consterné frappait le parquet de son front. Quand aux cieux de Mouilly, votre bon père, un jour, vous l'escortiez dans une reconnaissance qu'il poussait vers Chevreux, il laissa tomber son fouet et mit pied à terre pour le ramasser. Vous étiez seul avec lui, alors vous prîtes un pistolet dans vos fentes, et tandis qu'il se penchait, vous lui brisâtes le rein. Puis, le voyant mort, car vous le tuâtes du coup, vous prîtes la fuite sur le cheval qu'il vous avait donné. Voilà l'histoire, je crois. Et comme Maurevel demeurait muet sous cette accusation, dont chaque détail était vrai, Charles IX se remit à siffler, avec la même justesse et la même mélodie, le même air de chasse. Or ça, maître assassin, dit-il au bout d'un instant, savez-vous que j'ai grande envie de vous faire pendre? Ô majesté, s'écria Maurevel, le jeune de Mouilly m'en suppliait encore hier, et en vérité, je ne savais que lui répondre, car sa demande était fort juste. Sire, dit Maurevel, complètement découragé, ma vie est entre vos mains, faites-en ce que vous voudrez. Ah, vous avez raison, et je n'en donnerai pas une obole. Mais, sire, demanda l'assassin, n'y a-t-il pas moyen de racheter mon crime? Je n'en connais guère. Toutefois, si j'étais à votre place, ce qui n'est pas le cas, Dieu merci. Eh bien, sire, si vous étiez à ma place, murmura Maurevel, le regard suspendu aux lèvres de Charles. Je crois que je me tirerais d'affaire, continua le roi. Maurevel se releva sur un genou et sur une main, en fixant ses yeux sur Charles pour s'assurer qu'il ne raillait pas. J'aime beaucoup le jeune de Mouilly, sans doute, continua le roi, mais j'aime beaucoup aussi mon cousin de Guise, et si lui me demandait la vie d'un homme dont l'autre me demanderait la mort, j'avoue que je serais fort embarrassé. Cependant, en bonne politique comme en bonne religion, je devrais faire ce que me demanderait mon cousin de Guise, car de Mouilly, tout vaillant capitaine qu'il est bien petit compagnon comparé à un prince de Lorraine. Pendant ces paroles, Maurevel se redressait lentement et comme un homme qui revient à la vie. Or, l'important pour vous serait donc, dans la situation extrême où vous êtes, de gagner la faveur de mon cousin de Guise. Et à ce propos, je me rappelle une chose qu'il me contait hier. Maurevel se rapprocha d'un pas. Figurez-vous, sire, me disait-il, que tous les matins à 10 heures passe dans la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, revenant du Louvre, mon ennemi mortel. Je le vois passer d'une fenêtre grillagée du rez-de-chaussée. C'est la fenêtre du logis de mon ancien précepteur, le chanoine Pierre Pilez. Je vois donc passer tous les jours mon ennemi, et tous les jours je prie le diable de l'abîmer dans les entrailles de la terre. Dis donc, maître Maurevel, continua Charles, si vous étiez le diable, ou si du moins pour un instant vous preniez sa place, cela ferait peut-être plaisir à mon cousin de Guise. Maurevel retrouva son infernal sourire, et ses lèvres, pâles encore d'effroi, laissèrent tomber ces mots. Mais, sire, je n'ai pas le pouvoir d'ouvrir la terre, moi. Ah, vous l'avez ouverte cependant, s'il m'en souvient bien, au brave de Mouilly. Après cela, vous me direz que c'est avec un pistolet. Ne l'avez-vous plus, ce pistolet? Pardonnez, sire, reprit le brigand, à peu près rassuré, mais je tire mieux encore l'arquebuse que le pistolet. Oh, fit Charles IX, pistolet ou arquebuse, peu importe, et mon cousin de Guise, j'en suis sûr, ne chicanera pas sur le choix d'un moyen. Mais, dit Maurevel, il me faudrait une arme sur la justesse de laquelle je puisse compter, car peut-être me faudra-t-il tirer de loin. J'ai 10 arquebuses en cette chambre, reprit Charles IX, avec lesquelles je touche un écu d'or à 150 pas. Voulez-vous en essayer une? Oh, sire, avec la plus grande joie, s'écria Maurevel en s'avançant vers celle qui était déposée dans un coin et qu'on avait apportée le jour même à Charles IX. Non, non, pas celle-là, dit le roi, pas celle-là, je la réserve pour moi-même. J'aurai un de ces jours une grande chasse où j'espère qu'elle me servira, mais tout autre à votre choix. Maurevel détacha une arquebuse d'un trophée. Maintenant, cet ennemi, sire, quel est-il? Demanda l'assassin. Est-ce que je sais cela, moi? Répondit Charles IX en écrasant le misérable de son regard dédaigneux. Ah, je le demanderai donc à monsieur de Guise, balbutia Maurevel. Le roi haussa les épaules. Ne demandez rien, dit-il. Monsieur de Guise ne répondrait pas. Est-ce qu'on répond à ces choses-là? C'est à ceux qui ne veulent pas être pendus à deviner. Mais enfin, à quoi le reconnaîtrais-je? Je vous ai dit que tous les matins, à 10 heures, il passait devant la fenêtre du chanoine. Mais beaucoup passent devant cette fenêtre, que votre majesté daigne seulement m'indiquer un signe quelconque. Oh, c'est bien facile. Demain, par exemple, il tiendra sous son bras un portefeuille de maroquin rouge. Bien sûr, il suffit. Vous avez toujours ce cheval que vous a donné monsieur de Mouy et qui court si bien. Sûr, j'ai un barbe des plus vite. Oh, je ne suis pas en peine de vous. Seulement, il est bon que vous sachiez que le cloître a une porte de derrière. Ah, merci, sire. Maintenant, priez Dieu pour moi. Eh, mille démons, priez le diable bien plus tôt, car ce n'est que par sa protection que vous pouvez éviter la corde. Adieu, sire. Adieu. À propos, monsieur de Maurevel, vous savez que si d'une façon quelconque on entend parler de vous demain avant 10 heures du matin, ou si l'on n'entend pas parler après, il y a une oubliette au Louvre. Et Charles IX se remit à siffler tranquillement, et plus juste que jamais, son air favori.